Il est 18h sur France Culture, le journal Boris Loumagne. Bonsoir Boris.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les Gilets jaunes de retour sur les ronds-points aujourd'hui, dans le calme cette fois. Le message est toujours aussi protéiforme, vous l'entendrez. Côté mobilisation, les cortèges sont clairsemés et le gouvernement ne s'est donc pas fait prier pour souligner la faiblesse et les errements du mouvement. Analyse à suivre. Nous irons en Grèce également après la manifestation d'une partie de la gauche. Mobilisation sous tension à Athènes. Et puis les surnommés Terminator et cela n'augure rien de bon. Portrait du nouveau président sri-lankais dans un instant. Le calme après la tempête pour les Gilets jaunes. Journée agitée hier, émaillée par de nombreuses violences. Mais aujourd'hui, les rassemblements, même s'ils sont clairsemés, se déroulent dans le calme. Alors certes, les galeries Lafayette ont été brièvement occupées par des manifestants ce matin à Paris. Mais en dehors de ça, les Gilets jaunes ont retrouvé leurs ronds-points, comme à Amiens, Limoges ou encore Bayonne. À Bayonne, c'est là que France Bleu Pays Basque a croisé Stéphane, un Gilet jaune de la première heure.
On lâche rien à nouveau parce que on devait être présent ce jour-là surtout, notamment avec ce qui nous a pondu encore nous, au niveau du gouvernement, c'est-à-dire la retraite par points. Donc faut savoir qu'on n'est pas des numéros et que la population, le peuple ne veut pas de cette retraite. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas convaincu de ce qu'ils nous ont lâché, c'est-à-dire pratiquement rien, à part peut-être des choses pour la police, éventuellement, pour quelques retraités et encore. C'est pas grand chose. Voilà, après, si ça continue, on va avoir à 2 euros le diesel, parce que ça continue à augmenter. Et ce qui fait que aujourd'hui, on se retrouve encore être présent.
Et si quelques gilets jaunes ne lâchent rien à l'image de Stéphane, il faut bien avouer que la mobilisation de ce week-end n'aura pas été à la hauteur de leurs attentes. On pouvait s'attendre à un réveil, on a essentiellement observé un sursaut, et cela, le gouvernement l'a bien compris. Bonsoir Adrien Palluet.
Bonsoir.
Le mouvement des Gilets jaunes est moribond à écouter l'exécutif qui tente d'asséner ce week-end le coup de grâce aux Gilets jaunes.
Oui, la réponse du gouvernement est arrivée rapidement avec un ton assez dur pour dénoncer principalement les violences qui ont émaillé les manifestations. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies.
Sibeth Ndiaye a aussi dénoncé la violence du mouvement, mais la porte-parole du gouvernement a utilisé un vocabulaire bien précis, qui est pourtant toujours délicat à manier.
On a eu à la fois des gens au cours de ce mouvement qui se sont radicalisés, évidemment je le regrette, on a eu aussi des gens qui, je crois malheureusement, ont en quelque sorte fait de l'entrisme, notamment à l'ultra-gauche, qui conduisent aujourd'hui à ce qu'il y ait ces violences qui sont des violences organisées, voulues à l'intérieur de manifestations.
Pour le politologue Olivier Roucan, cette radicalisation existe bel et bien chez les Gilets jaunes. Il explique, je cite, que le mouvement a désormais parti lié avec des opérations violentes. Quant à savoir s'il faut voir dans cet anniversaire un vrai retour des Gilets jaunes ou pire, les prémices d'une convergence des luttes le 5 décembre, Olivier Roucan est plus mesuré.
Le 5 décembre, c'est un jour de grève. On sait bien que parmi les populations qui nourrissent ce mouvement des Gilets jaunes, il y a parfois des difficultés à pouvoir quitter le travail ne serait-ce qu'un jour par semaine, raison pour laquelle ils manifestaient souvent le dimanche ou le samedi. Et puis, faut bien avoir ceci en tête, la grève coûte, donc c'est peut-être ce qui pourra retenir une participation massive des publics qui ont alimenté jusque-là les Gilets jaunes.
Analyse du politologue Olivier Roucan et dossier signé Adrien Palluet. Merci Adrien. 100% des gagnants ont tenté leur chance, disait une vieille publicité pour le loto. C'est peut-être dans cet esprit que de nombreux particuliers se sont précipités sur les actions de la Française des Jeux, nouvellement privatisée. Plus d'un milliard d'euros d'actions ont déjà été commandées, annonce du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui rappelle que cet argent doit servir à financer en partie des PME et des TPE. L'arrivée au pouvoir d'un homme à la poigne de fer au Sri Lanka, le pays marqué par de violents attentats il y a 6 mois, a donc placé à sa tête un ancien militaire. Gotabaya Rajapakse vient de remporter la présidentielle avec 52% des suffrages. Au Sri Lanka, Sébastien Farsi.
Réjouissons-nous de manière apaisée, avec dignité et discipline, et souvenons-nous que tous les Sri Lankais doivent être inclus dans cette nouvelle aventure. C'est avec ce message de rassemblement que Gotabaya Rajapakse vient d'annoncer sa victoire quelques minutes après que son rival Sajid Premadasa a concédé sa défaite. Ces mots de rassemblement sont importants car le clan des Rajapaksé a laissé un souvenir de division et de répression des minorités. Mahinda Rajapaksé, le frère de Gotabaya, a régné d'une main de fer sur l'île pendant 10 ans. Il a mis fin à la guerre contre la rébellion dans un bain de sang qui aurait coûté la vie à plus de 10 000 civils tamouls. Et les membres de cette minorité ont ensuite été arrêtés de manière arbitraire, accusés de collaborer avec les rebelles. Gotabaya Rajapaksé, lui, était secrétaire d'État à la Défense à cette époque et il est accusé de torture devant un tribunal américain. Il devra donc, en tant que président, prouver qu'il peut, comme il le dit aujourd'hui, respecter le droit des deux principales minorités du pays, les Tamouls et les musulmans, qui représentent à L2 21% de la population sri-lankaise.
Sébastien Farsi. Les bureaux de vote bientôt fermés au Bélarus. Les électeurs se choisissent de nouveaux députés. L'homme fort du pays, Alexandre Loukachenko, devrait conserver une confortable majorité à l'Assemblée. L'opposition a d'ores et déjà dénoncé des violations massives lors du scrutin. Les défenseurs des droits de l'homme affirment notamment avoir été chassés des bureaux de vote. Des milliers de manifestants dans les rues d'Athènes aujourd'hui, surveillés par presque autant de policiers. Traditionnelle mobilisation de la gauche, 46 ans jour pour jour après le soulèvement des étudiants contre le régime des colonels. 24 morts en 73. Climat particulièrement tendu donc cette année après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de droite. Dans la capitale grecque, Angélique Kourounis.
Drones, hélicoptères, 5000 policiers en armes mobilisés, autant en civil. Le grand centre d'Athènes tout bouclé, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis n'a pas lésiné sur les moyens pour décourager les Grecs à descendre dans la rue commémorer le 46e anniversaire de l'insurrection des étudiants contre les colonels le 17 novembre 73. Selon les organisateurs, ils sont pourtant au moins 20 000 à battre le pavé en ce moment, la moitié selon la police. Cette année, cette manifestation revêt d'une importance toute particulière vu le dogme sécuritaire mis en place dans le quartier contestataire d'Exarchia où les squats sont évacués, les forces anti-émeutes, les tristement célèbres MAT sont entrées dans les facultés, multipliant les interpellations et les humiliations, n'hésitant pas même en début de semaine à dénuder des manifestants et à simuler contre l'un d'entre eux un viol. Malgré la sévérité de la loi récemment votée contre les violences urbaines, des incidents sont à redouter, ils ont déjà commencé dans le quartier d'Exarchia où la police fouille les terrasses des immeubles. Désormais, logé d'un cocktail Molotov, c'est 10 ans de prison ferme.
Angélique Kourounis. Ils réclament un changement de régime depuis plusieurs semaines déjà. En Irak, des milliers de manifestants ont à nouveau envahi les rues de Bagdad. Ils répondaient ainsi à un énième appel à la grève générale. Ce mouvement de contestation inédit a fait au moins 330 morts en majorité parmi les manifestants. Les attaques de djihadistes se font de plus en plus fréquentes au Burkina, 38 morts il y a 10 jours dans l'attaque d'un convoi d'une société minière. Alors l'armée burkinabé mène depuis 2 jours des opérations dans le nord du pays et aujourd'hui elle affirme avoir tué 32 terroristes. Venise à la merci des éléments, la cité des doges vit depuis plusieurs jours au rythme des marées et du vent, des montées des eaux exceptionnelles qui ont déjà causé 1 milliard d'euros de dégâts. Nouvel épisode en début d'après-midi, mais l'eau a enfin commencé à redescendre. En Italie, Xavier Sartre.
Les pavés de la place Saint-Marc luisent de l'eau de la lagune qui se retire petit à petit au fil des heures. Les touristes ont pu réinvestir les lieux après avoir passé plusieurs heures confinés dans les hôtels. 77% des rues piétonnes ont été submergées aujourd'hui. Le pic de la marée haute a eu lieu à 13h10, 150 cm, soit 10 de moins que prévu par le centre des marées de Venise. Mais les hautes eaux feront leur retour demain, d'abord dans la nuit dans une moindre mesure, puis à la mi-journée, 115 cm sont cette fois attendus. Les autorités, plus que sur le marégraphe, ont maintenant les yeux rivés vers le ciel. La Vénétie a été placée en alerte rouge par la protection civile à cause des intempéries. De fortes perturbations sont attendues dans les heures qui viennent et les fleuves de la région pourraient bien sortir de leur lit. La lagune de Venise pourrait ainsi recevoir davantage d'eau que d'habitude. À cela s'ajoute le sirocco qui souffle fort et pousse la mer vers la terre. La Sérénissime se retrouverait alors pris entre deux eaux, ce qui amplifierait la marée haute. En attendant, les polémiques et les débats sur ce qui aurait dû être fait ou sur ce qui devrait être fait se poursuivent. Les inondations de ces derniers jours auront eu au moins un mérite, relancer la réflexion sur le futur de la ville, sur son organisation, sur la gestion des flux touristiques et sur la manière de la protéger, notamment via l'achèvement du projet Mosée qui fait tant défaut ces jours-ci.
Les explications de Xavier Sartre. Le temps pour demain matin, maussade, pluvieux de l'Aquitaine au Grand Est en passant par la Corse. Les températures toujours basses pour la saison de 2 à 6 degrés. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Caroline Beneteau.